Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce beau mardi 19 juin 2018, avant-dernière journée du printemps. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Est-ce que c'est la journée internationale de la belle journée de printemps aujourd'hui?
Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Quoi qu'on pourrait, on pourrait unir nos forces et tenter de faire adopter cette journée-là.
Oui, hein?
19 juin, belle avant-dernière journée de printemps, ce qui ordonnerait à Dame Nature de toujours nous donner de la belle météo.
Ah, oh, je suis certaine qu'elle nous écouterait.
19 juin, parlant de printemps et d'été, c'est une date possible, 19 juin, pour le solstice d'été dans l'hémisphère nord, mais quand même très peu fréquente. La prochaine fois sera en l'an 2488. Nous ne serons donc pas là pour pouvoir festoyer le solstice d'été un 19 juin. 19 juin, c'est aussi la journée mondiale de la drépanocytose, également appelée hémoglobinose S, cyclémie ou anémie à cellules falciformes. C'est une maladie donc génétique du sang. C'est également la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. On le sait bien que l'utilisation du viol comme arme de guerre est une réalité, donc qui doit être aussi combattue. Mais sinon, dans les événements marquants, en ce 19 juin 1721, près de la moitié de Montréal est détruite par le feu. 1819, partie de Georgie, le Savannah arrive à Liverpool, complétant la première traversée de l'Atlantique par un navire à vapeur. 1885, la Statue de la Liberté, œuvre d'Auguste Bartholdi, et dont de la France aux États-Unis, on le sait, arrive en pièces détachées à New York.
Je ne connaissais pas le créateur.
On parle très rarement.
Oui.
On connaît bien Gustave Eiffel pour la Tour Eiffel, mais pour ce qui est de la Statue de la Liberté, Auguste Bartholdi.
Je ferme ma fraîche maintenant.
19 juin 1958, Ottawa accepte la création du commandement de la défense aérienne d'Amérique du Nord. L'acronyme NORAD, donc basé au Colorado. 1961, le Koweït obtient son indépendance. 1969, trois bombes du FLQ éclatent à Québec lors d'un congrès de l'Union nationale. 1975, toujours un 19 juin, première conférence de l'ONU sur la condition de la femme. 1978, première parution de la bande dessinée du félin amateur de lasagne et qui est les lundis. Garfield.
Qu'on voit des fois dans les autos, sur les pas les pare-brises, mais dans les fenêtres, comme agrippées.
Avec des ventouses, oui, très sympathique, Garfield. 1991, Pablo Escobar, chef de cartel, est considéré comme l'un des plus grands criminels du 20e siècle, se livre aux autorités colombiennes et reçoit l'assurance de ne jamais être extradé vers les États-Unis. Et 1993, maintenant âgé de 5 ans, c'était il y a quand même longtemps, Jordi devient le plus jeune interprète soliste de l'histoire à inscrire un disque au hit parade avec « Dur, dur d'être un bébé ».
Ça nous a marqué, hein?
Oui, et je vous rassure tout de suite, nous n'entendrons pas cette chanson à l'émission aujourd'hui.
Quel âge il a aujourd'hui, Jordi?
Il avait 5 ans en 1993.
Bon, alors ça fait quoi, 25 ans?
Il est donc né en 1988 environ.
30 ans cette année, Jordi.
30 ans. Anniversaire de naissance, parlant des fêtes, 19 juin, créateur de National Geographic Society, le magazine National Geographic, donc John Barrow, né en 1764. Également, 19 juin, 1623, anniversaire de naissance du mathématicien, physicien, philosophe, moraliste et théologien français Blaise Pascal. Et finalement, anniversaire de décès, il nous quittait en 1986, le comique français Michel Colucci, c'est-à-dire...
Oui, Coluche.
Coluche. Oh,
merci beaucoup Jean-Sébastien. À la une de la presse, plus immigrants illégaux aux États-Unis, fermeté extrême, plus de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents depuis le mois de mai au nom de la nouvelle politique de zéro tolérance du président Trump. Une situation aussi cruelle qu'inédite est décriée de toutes parts, portraits et analyses. La chronique de Nathalie Petrovski intitulée « La police du rap ». Élection provinciale, sans ville, sans voix, et ça se poursuit ce dossier, ce qu'ils pensent maintenant en Outaouais. et pose santé, alimentation, manger gras pour maigrir. On y voit des avocats, noix, poissons, asperges, artichauts. Un régime en vogue soulève l'enthousiasme et la controverse. Victoire des conservateurs dans Chicoutimi, le Fjord. Les stratèges libéraux ont appris une dure leçon hier soir. À 16 mois des prochaines élections, la popularité de Justin Trudeau a ses limites. Durant les 10 derniers jours de campagne, le premier ministre s'est rendu dans la circonscription de Chicoutimi, le Fjord, à deux reprises malgré un horaire fort chargé, afin de préserver ce siège remporté de peu par les libéraux au dernier scrutin. Ces efforts n'ont pas permis de faire mentir le sondage publié mercredi dernier, jour d'une visite sans précédent de quatre chefs dans cette circonscription. Le coup de sonde prédisait une victoire sans appel du candidat conservateur Richard Martel. L'ancien entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi a en effet vogué vers une victoire facile hier soir, récoltant 52,7% des suffrages au moment d'écrire ses lignes, loin devant la candidate libérale Lina Boivin qui recueillait 29,5% des voix. Même si le nouveau Parti démocratique avait remporté cette circonscription durant la vague orange en 2011, avant de la céder au Parti libéral en 2015, le candidat néo-démocrate Éric Dubois obtenait hier soir un famélique 8,7% des voix. Il devançait à peine la candidate du Bloc québécois Catherine Bouchard-Tremblay, 5,6%, un parti tiraillé par une guerre fratricide depuis plusieurs mois. L'éditorial d'Alexandre Sirouin intitulé « Non, cela ne lui brise pas le cœur ». L'ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, a publié sur Twitter le week-end dernier une photo du camp de concentration d'Auschwitz. « D'autres gouvernements ont séparé des mères de leurs enfants », a-t-il écrit. Il comparait, vous l'aurez compris, la politique controversée de l'administration Trump aux méthodes de l'Allemagne nazie. Cette réaction épidermique était extrêmement maladroite, mais elle démontre à quel point l'indignation est à son comble face à ce qui s'avère être une décision les plus cruelles prise par l'administration Trump jusqu'ici. Même l'ancienne première dame du pays, Laura Bush, est sortie de sa réserve pour dénoncer l'actuel président. « Je comprends le besoin de renforcer et protéger nos frontières internationales, mais cette politique de la tolérance zéro est cruelle, elle est immorale et ça me brise le cœur », a-t-elle écrit. Son texte a été publié par le Washington Post. Il n'est bien sûr pas passé inaperçu. Melania Trump s'est aussi prononcée sur cet enjeu controversé. Madame Trump déteste voir des enfants séparés de leur famille et espère que les deux camps politiques pourront enfin se réunir pour mener à bien la réforme de l'immigration, a déclaré sa porte-parole Stephanie Grisham. Donald Trump est persuadé qu'il faut réduire le nombre d'immigrants qui entrent aux États-Unis, tout particulièrement ceux qui traversent illégalement la frontière. Il rêve toujours de construire un grand, grand mur à la frontière sud de son pays. D'où ce plan machiavélique qui, semble-t-il, penser lui permettra d'atteindre deux objectifs. Premièrement, l'administration Trump veut avoir un effet dissuasif. Elle croit que si elle sépare les parents des enfants chaque fois qu'une famille traverse la frontière, plusieurs migrants potentiels renonceront à entrer aux États-Unis. Deuxièmement, la Maison-Blanche veut imposer ses idées en matière d'immigration aux membres démocrates du Congrès américain. Elle semble convaincue qu'en mettant de l'avant une politique que ses élus trouvent insupportable, il lui sera plus facile de les convaincre, par exemple, de débloquer 25 milliards pour construire un mur à la frontière. Selon cette logique, si le Congrès approuve un des deux projets de loi à l'étude actuellement en matière d'immigration, les parents et les enfants ne seront plus séparés à la frontière. Donald Trump le veut à tout prix, son mur. On le savait. On se rend maintenant compte qu'il est prêt à vendre son âme pour l'obtenir. Ce plan machiavélique ne date pas d'hier. La politique de la tolérance zéro a été officialisée en avril par l'administration Trump. On a appris hier qu'en mai et en juin, 2342 mineurs ont été séparés de leurs parents en l'espace de 5 semaines. On parle en moyenne de 66 enfants par jour. Séparer les enfants de leurs parents est inhumain. La détention d'enfants, d'ailleurs, est déplorable. Mais en plus, d'après ce qu'on voit et ce qu'on entend ces jours-ci, les méthodes mises en œuvre sont accablantes. On parle de centres de détention où les enfants se retrouvent nombreux dans ce que plusieurs qualifient de cages. Selon certaines photos, ils couchent sur des matelas à même le sol, les uns près des autres. Et d'après ce qu'a raconté la présidente de l'Académie américaine de pédiatrie, Colin Kraft, aucun contact physique n'est permis avec ces enfants de la part d'adultes. Il est interdit en somme de les consoler et leurs parents ne sont pas là pour les rassurer. Les besoins fondamentaux d'un jeune enfant qui a besoin de faire confiance aux adultes n'étaient pas satisfaits. Cela contredit tout ce qui, savons-nous, est nécessaire à la bonne santé d'un enfant, a confié Mme Kraft au Washington Post après avoir visité un des centres. Tout ça ne semble pas émouvoir le moins du monde le président américain. Il met la faute sur le dos des démocrates, mais c'est un mensonge. Une simple décision de sa part permettrait de mettre fin à ce cauchemar, ce qui ne semble pas sur le point de se produire. Au contraire, la secrétaire à la Sécurité nationale, Mme Nielsen, a même hier fermement défendu la position de son administration. « Nous ne présenterons pas d'excuses parce que nous faisons notre travail », a-t-elle dit. Si cette terrible politique fend le cœur de Laura Bush et d'un grand nombre d'Américains, elle ne brise apparemment pas celui de Donald Trump. Autorité des marchés publics, Kathleen Lévesque, s'il n'en tient qu'à Denis Galland, les entreprises qui se réincarnent en se cachant derrière des structures, des sociétés à numéros, ou plus simplement en utilisant leurs proches comme paravent pour obtenir des contrats publics, auront la vie dure. Le premier président directeur général de la nouvelle Autorité des marchés publics, AMP, promet de talonner ces entreprises bandits. Comme procureur en chef adjoint de la Commission Charbonneau et par la suite comme inspecteur général de la Ville de Montréal jusqu'à jeudi, Denis Galland a constaté à quel point certaines entreprises usaient de ruses pour se faufiler jusqu'au fil d'arrivée, dans la course au contrat public. « Moi, j'ai des problèmes avec les entreprises bandits, celles qui continuent en se cachant derrière des compagnies à numéros. C'est à ça que je veux m'attarder », explique Denis Galland en entrevue avec la presse. Londres s'attaque aux voyeurs qui prennent des photos sous les jupes. Prendre des photos sous les jupes des femmes sera bientôt interdit au Royaume-Uni, a décidé hier le gouvernement britannique qui a repris à son compte une proposition de loi parlementaire rejetée vendredi en raison de l'opposition exprimée par un député conservateur. Le gouvernement va introduire un projet de loi qui sera présenté jeudi à la Chambre des communes et qui sera débattu avant la pause parlementaire du 28 juillet, a annoncé la secrétaire d'État à la Justice, Lucy Fraser. Vendredi, le député conservateur Christopher Shopp avait bloqué l'examen du texte en criant « objection », sous prétexte qu'il n'y avait pas de débat approprié programmé, s'attirant de vives critiques et la décoration de l'entrée de sa permanence locale ainsi que de son bureau au Parlement avec des culottes. Bon de voir la rénovation intervenue dans mon couloir pendant le week-end, s'est moquée la députée verte Caroline Lucas, dont le bureau jouxte celui de M. Shopp, accompagnant son message d'une photo des culottes colorées accrochées sur un fil ornant la porte de son voisin. La proposition de loi visant à punir de 2 ans de prison les voyeurs qui prennent des photos sous les robes ou les jupes avait été introduite par la députée libérale démocrate Wira Obaus à la suite d'une campagne menée par Gina Martin, jeune femme de 26 ans, elle-même victime de cette pratique désignée par le terme « upskirting » en anglais.
Excès, font gaffe à tout et se surveillent de près. Avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce, mais leur capitale santé mérite des sacrifices. Ils boivent de la bière sans alcool, elles mangent pas de viande, ça donne du cholestérol. Ils boivent leur café décaféiné avec du sucre et sucrifié. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge qu'elle combine avec un doux gommage qui restructure en profondeur les macromolécules en hydratant le derme contre les rides et les ridules. Comme il redoute l'effet peau d'orange, elle a eu un rameur pour leurs 10 ans de mariage. Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition. C'est quoi ses coupes, ses médailles, bien en vue dans le salon. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto et boire des apéros. Les cheveux blancs des vieux, les enfants dépeignés, les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez, le bordel, le désordre et le bruit, le pas bien rangé, le ça peut plus durer à notre santé. Des fois un criminel allume une cigarette, elle le fusille du regard et court vers la fenêtre. Elle dit ah de l'air, c'est vivifiant, et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement. Il a des bombes qui vaporisent du poison contre tous les insectes de la création. Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies. Il a des doutes sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit. Et ses voisins, j'en fais partie. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Est-ce de ma faute à moi si j'aime le café et l'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros à notre santé. Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, boire des apéros. Est-ce de ma faute à moi?
La musique est signée Benabar, les paroles sont signées Benabar. C'était la pièce À notre santé de l'album Benabar et c'était interprété, je vous le donne en mille, par Benabar.
À la une du Devoir, migrants, Trump justifie sa politique. Donald Trump s'est invité lundi dans la crise politique en Allemagne, brandissant le spectre d'une immigration hors de contrôle en Europe pour justifier sa politique d'extrême fermeté aux frontières américaines, où quelques 2000 enfants migrants ont déjà été séparés de leurs parents. Drogue, injection supervisée, une barrière tombe. À Montréal, les usagers pourront demander à un ami de leur faire l'injection. Danemark, une blessure toujours ouverte. 13 ans plus tard, que reste-t-il de l'épisode des caricatures danoises qui ont enflammé l'islam? Dernier article d'une série de trois signée par Christian Rioux, qui est à Copenhague. Le trouble du jeu vidéo est enfin reconnu. L'installation bidon de l'artiste Christo à Londres. Et attentat de Québec, Bissonnette est réhabilitable, plaident ses défenseurs. Après un an d'activité, les services d'injection supervisée SIS de Montréal souhaitent abattre les contraintes qui découragent des usagers de drogue de les fréquenter. Santé Canada vient d'autoriser l'injection par un pair, demande qui était récurrente, la possibilité de tester sur place sa drogue pour détecter la présence de fentanyl, sera aussi offerte sous peu. Santé Canada a d'ailleurs renouvelé les permis des SIS pour les 3 années à venir. L'impossibilité de fréquenter les SIS accompagnés d'un tiers qui pourrait procéder à l'injection était une barrière assez importante à l'accès aux services, a expliqué la directrice générale de Cactus Montréal, Sandhya Vadlamudi, en conférence de presse lundi. La santé publique dressait le bilan d'un an d'activité des SIS Montréal qui compte 3 sites fixes et 1 site mobile. Santé Canada a autorisé un projet pilote de 6 mois pour l'injection par un pair. La détection du fentanyl à l'aide de bandelettes sera aussi disponible d'ici quelques semaines, a confirmé la docteure Carole Morissette de la Direction de la santé publique de Montréal. Une étude de faisabilité sera aussi conduite pour évaluer la possibilité d'utiliser un appareil portable plus précis encore. Les avocats qui défendent Alexandre Bissonnette estiment que son profil ne correspond pas à ce que le gouvernement du Canada avait en tête quand il a décidé en 2010 de permettre aux tribunaux de condamner des meurtriers à des peines cumulatives de 25 ans par vie enlevée. On fait référence à des gens sans remords, à des tueurs en série sans remords, a dit lundi Maître Charles-Olivier Gosselin dans sa plaidoirie sur la peine au Palais de justice de Québec. L'intention du législateur, a-t-il ajouté, était de viser des gens qui ne sont pas réhabilitables. La décision de modifier le code criminel a été prise en 2010 sous le gouvernement de Stephen Harper. Depuis son entrée en vigueur, la plus longue sentence cumulée à avoir été imposée est de 75 ans pour le meurtre de 3 policiers à Moncton par Justin Bourque. Or, les avocats d'Alexandre Bissonnette estiment que son cas est différent de celui de Justin Bourque parce qu'il s'est livré à la justice très rapidement, alors que Bourque a été arrêté 28 heures après le début de la tuerie. La défense réclame une peine de 25 ans avec possibilité de réhabilitation. Alexandre Bissonnette a déjà plaidé coupable pour les 6 meurtres et les nombreux blessés graves qu'il a faits en attaquant la mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Les observations sur la peine se poursuivent mardi, aujourd'hui avec la conclusion de la plaidoirie de la défense et la présentation de celle de la couronne. Le juge a réservé des plages horaires au dossier jusqu'à jeudi. Sa décision sur la peine doit être rendue à l'automne. Le ping-pong législatif est lancé. La Chambre des communes a renvoyé son projet de loi sur la légalisation du cannabis au Sénat. Le C-45, dépouillé des amendements dont ne voulait pas le gouvernement Trudeau, a été approuvé à 205 voix contre 82. Les libéraux et les néo-démocrates l'ont appuyé. Les conservateurs et les élus du Bloc québécois et de Québec debout s'y sont opposés. Exit donc l'autorisation pour les provinces d'interdire la culture à domicile, tout comme l'interdiction d'afficher les logos de producteurs de cannabis sur des T-shirts. Les sénateurs devront maintenant décider s'ils acceptent ou non la nouvelle version du C-45. Un second ping-pong législatif a en outre été lancé sur le projet de loi sur les facultés affaiblies. Le gouvernement a confirmé qu'il rejetait là encore les amendements du Sénat, notamment celui qui retirait les alcotestes aléatoires du C-46. Les libéraux tiennent à cette mesure, mais certains sénateurs craignent qu'elle mène à des contestations constitutionnelles et à du profilage racial. Le ministre des Finances Bill Morneau est blanchi par le commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts Mario Dion. Il n'a pas contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts en parrainant le projet de loi C-27 permettant la création de régimes de pension à prestations cibles, un changement législatif dont son entreprise familiale est susceptible de bénéficier. « Près de la moitié de la population québécoise est d'avis que l'immigration présente un grand, voire un très grand risque pour le Québec, indique un sondage commandé par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO. Précisément, 48 % des 1000 personnes sondées associent à un grand ou à un très grand risque l'arrivée de dizaines de milliers d'immigrants par année au Québec, 28 % à un moyen risque et 22 % à un risque faible ou négligeable. Le motif dépend toujours du répondant. Ça peut être un risque perçu pour sa sécurité, pour son emploi, pour la culture ou d'autres raisons, explique la co-auteure de l'étude Ingrid Peigny dans un entretien avec Le Devoir. Les Québécois associent un risque plus grand à l'immigration qu'à la pollution de l'air et de l'eau, à la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, au terrorisme ou encore aux épidémies, indique le baromètre CIRANO 2018, dévoilé à 100 jours et dépoussière des prochaines élections générales. La Commission de la construction confirme que très peu, voire presque pas de grutiers sont au travail lundi au Québec et que ces absences constituent une grève illégale. Elle invite les entrepreneurs qui en sont victimes et les grutiers qui auraient été fortement incités à s'absenter à porter plainte. La ministre responsable du travail, Dominique Vien, a invité les grutiers à reprendre vite le travail, rappelant que les associations et les travailleurs s'exposent à des amendes. Comme la convention est en vigueur jusqu'en 2021, une grève ou un ralentissement est considéré comme illégal. Le fond du litige est le mécontentement des grutiers sur les modifications à la formation. Selon la section locale 791G de la FTQ Construction, elle nuit à la sécurité des grutiers et du public en diminuant les exigences de formation. Et pour terminer, le président américain Donald Trump a confirmé lundi sa volonté officielle de créer une sixième branche des forces armées américaines, une force spatiale Space Force qui serait indépendante de l'armée de l'air, mais que le Congrès doit encore autoriser. « Nous allons avoir une armée de l'air, une force armée de l'espace, séparée mais égale », a-t-il dit, tranchant le débat actuel en défaveur de ceux qui voulaient que la nouvelle force spatiale soit rattachée à la U.S. Air Force. Hélène Denis qui vous accompagne, c'est le quotidien des quotidiens qui se poursuit après la pause et la chanson.
Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent douillé dans ma tête. Je n'ai jamais vu Rio. Un pain de sucre sur les cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. Je n'ai jamais vu Delhi. Mais j'ai rêvé au plein de crème. Je n'ai jamais vu Bali. Comme une flûte qui hante lointain. Je n'ai jamais vu Jah. Mais y a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York.
Je ne vois rien.
C'était Daniel Lavoie et la pièce « Je voudrais voir New York » tirée de son album de 1986 « Vue sur la mer » et on souhaite à Daniel Lavoie depuis le temps d'avoir pu contempler New York.
Alors Jean-Sébastien, il a déjà dit qu'il avait vu New York parce qu'il était vraiment tanné de se faire poser la question. À la une du Journal de Montréal, en ce mardi 19 juin 2018, les grutiers imposent leur loi, menaces et intimidations sur les chantiers. Message texte syndical, faire des 100 000 par année, ça va être fini. Un entrepreneur visé par l'incendie d'une de ses grues. Nos prévisions pour le repêchage, Philippe Zadina avec le Canadien. Le conservateur Richard Martel élu, l'étoile de Justin Pally au Saguenay. Un promoteur de tours de bolide aurait disparu avec leur argent. Des clients se disent floués par un promoteur de tours de voitures de luxe qui aurait disparu avec leur argent sans qu'ils puissent conduire une Lamborghini ou une Corvette comme ils en rêvaient. C'est frustrant parce que tu payes pour quelque chose, mais tu n'as rien en retour. Tu ne sais même pas pourquoi, tu n'as pas de nouvelles. S'il a fait faillite, il aurait pu nous rappeler pour nous rembourser, déplore Pierre-Carl Matt, qui avait acheté un forfait à 250 $ pour faire 5 tours en Lamborghini avec son frère et son père. La compagnie offrait la possibilité de conduire différentes voitures de luxe comme une Lamborghini ou une Acura NSX qui peuvent valoir quelques centaines de milliers de dollars pendant 2, 5 ou 10 tours sur un circuit fermé à l'autodrome Saint-Eustache. Le Journal de Montréal a obtenu le témoignage de 7 clients qui ont acheté un forfait à l'entreprise Jet Set Location qui tenait un kiosque en janvier au Salon de l'Auto de Montréal. Les 7 clients avec qui le journal s'est entretenu ont payé sur place de 150 à 400 $ et se sont fait promettre un appel en avril ou en mai pour prévoir le jour des essais. Mais cet appel n'est jamais venu. Ils ont tenté en vain de joindre l'entreprise. Le journal a appelé l'entreprise, mais un message automatisé nous informe que le numéro n'est pas attribué. Le journal n'a donc pas non plus été en mesure de joindre le propriétaire de Jet Set Location, Marc-André Duclos, pour lui demander sa version des faits. Il affirme avoir étranglé sa conjointe par accident. Un homme accusé du meurtre de sa conjointe enceinte de 5 mois a répété avec exaspération hier qu'il avait étranglé celle-ci par accident, mais qu'il n'avait pas pu se débarrasser du corps par respect. Tu ne jettes pas un corps, tu ne commences pas à enterrer ça sans que le reste de la famille le sache. J'avais quand même du respect. C'était ma femme, a répondu Alexandre Gendron quand son avocat lui a demandé pourquoi il ne s'était pas débarrassé du corps de Cheryl Beau Tremblay. Le jury chargé du sort de Gendron doit déterminer s'il avait l'intention de tuer sa conjointe ou s'il aurait plutôt commis un homicide involontaire. Dans un récit décousu, l'homme de 38 ans a rapporté hier avoir étranglé accidentellement sa conjointe en la maîtrisant. « Je n'ai jamais désiré qu'elle meure. Je n'ai rien planifié de ça », a-t-il soutenu. Thank you. La tuberculose se propage au nord. Les Inuits sont aux prises avec cette maladie qui avait pourtant été presque éradiquée. Pas moins de 18 nouveaux cas de tuberculose ont été déclarés depuis le début de l'année au Nunavik, alors que la maladie est presque absente du reste du Québec. Les Inuits ont de 100 à 300 fois plus de chances, on écrit chance ici, d'être atteints que le reste de la province. Le virus n'est malheureusement pas vraiment en perte de vitesse, dit la docteure Marie Rochette, coordonnatrice en maladies infectieuses, à la direction de la santé publique du Nunavik. Les conditions de vie des Inuits sont favorables à la transmission du virus. Les maisons surpeuplées et peu ventilées ainsi que la malnutrition font partie du problème. Le vaccin contre l'infection a été réintroduit dans 6 des 14 municipalités inuites qui ont eu plus de cas. Il est donné aux enfants de moins de 2 ans et protège contre les formes les plus virulentes de l'infection. Les directions de village du Nunavik font beaucoup de sensibilisation pour inciter les gens atteints d'une tuberculose latente à se soigner, et ce même s'ils n'ont pas encore développé la maladie qui ne devient contagieuse qu'à l'apparition des symptômes. De 30 à 40 des gens diagnostiqués avec une tuberculose latente refusent les traitements par antibiotiques qui doivent durer 4 ou 9 mois. L'ado qui l'aurait frappé a été accusé. La mère n'en veut pas au jeune qui n'est pas intervenu. Jérémy Courchêne-Arsenault a été attaqué à l'heure du souper alors qu'il allait rejoindre des amis. Un autre adolescent lui aurait proposé de se battre pour le fun, ce qu'il aurait refusé. Après quelques insultes, l'adolescent de 16 ans se serait fait rouer de coups à la tête par cet adolescent. Il a eu le nez fracturé à 4 endroits. On a dû lui placer des plaques et des vis sous les yeux car son globe oculaire droit était renfoncé et le gauche fracturé. L'agression a été filmée par un cellulaire puis échangée par message texte. Quand la sœur de la victime a mis la main sur la vidéo, elle l'a mise sur Facebook pour faciliter le travail des policiers qui cherchaient le suspect. L'adolescent, également âgé de 16 ans, qui l'aurait frappé, a été arrêté dimanche soir. Un troisième adolescent impliqué dans la mêlée que l'on voit sur la vidéo a été rencontré par les enquêteurs. Il n'y aura pas d'accusation contre lui pour l'instant. La mère, Sandra Courchêne, dit qu'elle ne peut pas lui en vouloir car il avait très peur de l'accuser et qu'il était en état de choc, même elle lui a quand même servi une leçon. « Je lui ai dit, peut-être que tu n'as pas aidé l'agresseur à frapper Jérémy, mais tu n'as pas aidé Jérémy non plus. Tu aurais pu lui crier d'arrêter », explique-t-elle. Un bicorne attribué à Napoléon ramassé sur le champ de bataille à Waterloo s'est vendu hier 350 000 euros, 537 000 $ canadiens, avec les frais lors d'une vente aux enchères tenue à Lyon en France. En 15 ans de règne, l'empereur des Français en aurait usé environ 120. 19 ont été plus clairement identifiés, dont celui-ci. Il s'agit d'un chapeau qui est traditionnellement attribué à Napoléon. Il aurait été ramassé après la défaite sur le champ de bataille de Waterloo par un capitaine des dragons hollandais et s'est ensuite transmis de génération en génération jusqu'à la fin du siècle dernier, où il a été vendu à l'actuel propriétaire, qui est un collectionneur français d'objets historiques. « Tu m'appelles Monsieur le Président ou Monsieur », a répondu hier le chef de l'État français Emmanuel Macron à un jeune qui l'apostrophait en lui demandant « Ça va, Manu ?»« Non, ça, tu ne peux pas », a lancé le président alors qu'il serrait la main des collégiens ayant assisté à une cérémonie en l'honneur des anciens combattants. « Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui, c'est la Marseillaise et le chant des partisans », a ajouté le président en référence à l'hymne national français et à celui de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. « Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur, d'accord ?» a-t-il ajouté en s'adressant à l'adolescent. Le jeune s'est alors excusé en lui disant « Oui, Monsieur le Président ».
Seasons change. I believe we should stop and smell the roses, 'cause maybe this time it will blow up in our faces, and if it does, we'll gather up the pieces. But now let ourselves be drawn to the beauty we found that comes and goes, sometimes even vanishes away. Faces change, but the thorns remain, while the roses keep growing, though you look away. And maybe this time it will blow up in our face, but only to fall back into place.
Plus récent extrait de la chanteuse Pascal Picard, la pièce s'intitule « The Beauty We've Found ».
Les journaux régionaux dans le droit, Justine Mercier. Son article s'intitule « Ma fille aux choux de Bruxelles va bien ». L'auteur d'un texte publié en ligne dimanche qui affirme être la mère de la fillette aux choux de Bruxelles se défend d'avoir fermé les yeux sur la pire nuit de la vie de son enfant de 8 ans, séquestré à table par son père pendant 13 heures pour avoir refusé de manger ses légumes. Le texte mis en ligne sur la plateforme « La parfaite maman cinglante » précise qu'il ne s'agit pas d'une romance et qu'il a véritablement été rédigé par la mère de la petite fille ayant vécu l'épisode des choux de Bruxelles. L'histoire a éclaté au grand jour lorsque la presse a publié la semaine dernière les grandes lignes d'un jugement rendu en janvier dernier au palais de justice de Gatineau. On y apprenait qu'un père de famille a été condamné à purger 4 mois de prison dans la collectivité après avoir empêché sa fille de 8 ans de se lever de table au souper parce qu'elle ne mangeait pas ses choux de Bruxelles. La fillette a passé la nuit à table en hypothermie, dans sa pisse et en braillant pour dormir, avait relaté le père dans un échange de textos avec son ex-conjointe, la mère de l'enfant. D'entrée de jeu, l'auteur du texte publié par la parfaite maman cinglante souligne être celle qui n'a pas pu protéger sa fille d'être maltraitée. La nuit du 23 janvier 2016, ma fille cadette a vécu l'inacceptable. Elle a probablement vécu la pire nuit de sa vie sans que je sois là pour l'empêcher, écrit-elle. Alors que dans l'échange de textos reproduit dans le jugement, la mère ne se pose pas aux mesures disciplinaires imposées par le père, le texte publié dimanche vient nuancer cette partie de l'histoire. « Je savais qu'il arrivait que leur père soit intense dans sa discipline, mais on n'enlève pas la garde à un père parce que ses enfants se plaignent qu'il crie trop fort et qu'il est trop sévère », est-il raconté. « Jamais je n'aurais pu imaginer que sa discipline atteigne ce degré d'intensité. Connaissant mon ex, si je lui avais répondu qu'il était complètement fou d'avoir agi ainsi, ça aurait mis fin aux confidences. » J'ai donc exprimé mon désaccord avec modération pour ne pas couper la communication. Selon la version présentée, la Direction de la protection de la jeunesse et les policiers sont intervenus en douceur moins de 24 heures plus tard auprès de la jeune victime et de sa sœur. L'auteur du texte note au passage que son ex-conjoint restera toujours le père de ses filles. Attention, je ne banalise pas les gestes, je ne les excuse pas, ne les cautionne pas et jamais je ne minimiserai l'impact qu'ils ont eu sur mes filles, surtout sur ma cadette. Je dis seulement que ce qui est arrivé, je ne peux pas le changer. Je peux seulement être là pour aider, supporter, guider et aimer inconditionnellement ces deux êtres vulnérables que la vie, leur père, a écorchés. Depuis cette nuit cauchemardesque, le quotidien de la mère et de ses filles aura été marqué par de l'anxiété, des crises de larmes et des réactions post-traumatiques, lit-on dans le texte où il est précisé qu'aujourd'hui les trois sont bien, heureuses et fortes. L'auteur du texte, qui dit ne pas avoir d'opinion sur la sévérité de la sentence de son ancien conjoint, dit avoir tourné la page avec ses filles sur les événements de janvier 2016. Affirmant ne pas avoir lu les nombreux commentaires formulés depuis la médiatisation de l'histoire, l'auteur du texte note que les critiques contre le père blessent ses filles par ricochet. Ceux qui souhaitent du mal au père de mes filles n'ont pas pensé que s'il souffre, qu'il perd son emploi, qu'il est insulté ou jugé sur la place publique, ça ne fait qu'abîmer mes filles par ricochet, lit-on dans le billet. Ce n'est pas nécessaire de rouvrir la plaie par soif de justice, est-il écrit à la toute fin. Les gens qui ne connaissent pas mes filles, mais qui ont besoin de satisfaire leur soif de vengeance, je vous le dis et le répète, ma fille au chou de Bruxelles va bien. Mélissa Gagnon dans le quotidien Richard Martel élu haut la main. L'ex-entraîneur de hockey Richard Martel a raflé l'élection partielle dans Chicoutimi-le-Fjord sous la bannière du Parti conservateur du Canada lundi soir. Il devient donc le député fédéral de la circonscription après avoir ravi 52,7% des voix selon les résultats d'Élection Canada consultés avant de mettre sous presse. L'heure était à la fête au restaurant L'Usine de la Voix Maltais sur le boulevard Talbot où s'était rassemblé le clan de Richard Martel pour assister au dévoilement des résultats de la soirée électorale dès 20h. Peu après 21h30, alors que le dépouillement des premières boîtes de scrutin le plaçait déjà en tête, Richard Martel a été déclaré vainqueur par l'ex-député bloquiste de Roberval, Michel Gauthier, qui lui a récemment conféré son appui. L'ancien leader parlementaire du Bloc québécois venait tout juste de prononcer un discours enflammé au cours duquel il n'a pas manqué de vanter les mérites de son nouveau parti, d'encenser son chef Andrew Scheer et de faire l'éloge du candidat Martel. Le principal intéressé est entré dans la salle quelques minutes plus tard avec toute la confiance qui a fait sa marque derrière le banc, sous une salve d'applaudissements. En fait, c'est écrit « tollé », mais il aurait fallu écrire « une salve d'applaudissements ». Il faut dire que ses partisans s'attendaient à voir leur candidat couronné, lui qui a été placé en tête de liste par un sondage réalisé pour le compte du quotidien et de Radio-Canada la semaine dernière. « Inquiétez-vous pas, je vais livrer la marchandise. Je me suis nourri de chaque tape dans le dos. La circonscription est grande et je remercie mon équipe, des gens de cœur qui m'ont soutenu tout au long de ma campagne. Je vais être éternellement reconnaissant à tous ceux qui m'ont poussé à me dépasser. » Les bébés testés pour la surdité, c'est dans la tribune sous la plume de Marie-Christine Bouchard. Tous les bébés qui naîtront au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHUS du CIU 3S de l'Estrie-CHUS, subiront dorénavant un test de dépistage auditif. Cela fait plusieurs années que l'équipe de pédiatrie attendait le déploiement en Estrie de ce programme de prévention qui a fait ses preuves dans le cadre de projets pilotes dans d'autres hôpitaux québécois. La surdité bilatérale permanente touche d'un à trois nouveaux-nés chaque année au Québec, soit environ 84 petits Québécois. Ce test est réalisé par une infirmière qui a reçu une formation spécifique pendant le séjour à l'hôpital après la naissance de l'enfant. Le test est rapide, sans douleur et sans risque pour le nouveau-né. Les résultats sont disponibles dès que le test est terminé, se réjouit Catherine Rendall, audiologiste et chargée de projet. Ce programme vise à détecter précocement la surdité présente à la naissance et à entreprendre rapidement les interventions nécessaires afin de limiter les impacts sur le développement de l'enfant. Pour les enfants qui ont une surdité bilatérale des deux oreilles, les interventions précoces sont très importantes afin de limiter l'impact de la surdité sur le développement de l'enfant, explique la docteure Thérèse Côté-Boileau, chef et directrice du département de pédiatrie et co-gestionnaire médical du programme Jeunesse. Sans ce test, la surdité finit tôt ou tard par être décelée, soit vers 2 ans et demi quand l'enfant présente des troubles de langage ou de comportement, soit à l'école quand on se rend compte que l'enfant n'apprend pas adéquatement. Plus on intervient tôt avec les enfants qui ont un problème de surdité, plus les interventions seront efficaces. La mise en place de ce programme est au bénéfice de nos petits patients, se réjouit Dr Côté-Boileau. Environ 3000 bébés naissent à l'hôpital Fleurimont-du-Chus chaque année. De ce nombre, environ 60 bébés auront besoin d'un diagnostic plus complet en audiologie avec des tests plus poussés. Finalement, environ 9 bébés devront recevoir des soins du centre de réadaptation de l'Estrie dès les premiers mois de leur vie. Le test est tout simple. Le dépisteur, insère un petit bouchon dans l'oreille du bébé. L'appareil émet des sons et enregistre la réponse de l'oreille un peu comme un écho. Le bébé bouge à peine pendant le test qui ne prend que 2 minutes environ. L'appareil indique tout de suite si le test est positif. Si tel est le cas, le parent est rassuré. Si le test est négatif, les parents seront invités à faire passer un test plus complet à leur enfant dans une salle spécialement conçue dans le département d'audiologie du CHUS Fleurimont. Cette évaluation diagnostique se fait avec les équipes d'audiologistes et d'ORL de l'hôpital Fleurimont. Une cabine d'audiométrie a d'ailleurs été ajoutée au service d'audiologie afin de répondre aux besoins du programme. Les audiologistes du Centre de confirmation diagnostique travaillent également en collaboration avec le programme de déficience auditive des centres de réadaptation afin d'assurer la prise en charge des enfants qui présentent une surdité, souligne Catherine Rendall, audiologiste et chargée de projet. Richard Thérien, les chefs, Antoine gagnant, Laurent deuxième. Ça va être chaud, avait prédit Laurent. Et ce fut le cas. Après la seule femme, Anne-Rika Martin, à l'avoir emporté l'an dernier, Antoine Baillargeon de Montréal devient le 7e homme vainqueur des chefs, Laurent Matt Boily, du restaurant chez Saint-Pierre-Aubic, a terminé deuxième, alors qu'André-Anne Lachance du Ciel Bistro-Bar à Québec a été éliminée après les entrées. C'est avec du pigeonneau, un de ses produits préférés, et un pudding chômeur réinventé qu'Antoine, sous-chef chez Maison Boulue, a séduit les 3 juges. Preuve qu'il ne faut jamais se décourager, Antoine s'était déjà inscrit aux auditions des chefs il y a 4 ans sans être choisi. C'était l'année de Jérôme Rouault, avec qui je travaillais, qui a gagné et j'étais très content pour lui. Se souvient Antoine, joint au téléphone après sa victoire. C'est son patron, le chef exécutif Ricardo Bertolino, qui l'a convaincu de se réessayer. Et le voilà, gagnant. Alors, Antoine, qui a remporté 20 000 $ en bourse, ignore encore ce qu'il en fera. Je vais juste le placer pour l'instant, peut-être voyager. Il se réjouit du voyage à Londres qui complète le prix, une destination qu'il n'a jamais visitée. À plus long terme, comme la plupart des gagnants des chefs, Antoine souhaite ouvrir son propre restaurant. J'attends la bonne occasion. Je suis chez Maison Boulude depuis 6 ans. Je suis prêt à passer à la prochaine étape. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens en ce beau mardi de printemps ensoleillé qui a vraiment des airs d'été, l'été qui s'en vient très bientôt dans 2 jours. Hélène Denis qui vous accompagne, les actualités culturelles s'en viennent.
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Les étoiles filantes, c'est le titre de cette pièce des Cowboys Fringants.
Actualité culturelle, dès le début de 2019, l'univers sombre du romancier Patrick Senecal va se répandre sur les territoires anglophones avec une traduction en anglais des « 7 jours du Talion » qui va devenir « 7 days » chez Simon & Schuster Canada. La maison d'édition vient d'acquérir en effet les droits de traduction pour ce titre, mais aussi pour 5150 rue des Ormes. S'est réjoui lundi l'éditeur francophone de Senecal, les éditions À lire. La traduction sera pilotée par Howard Scott et Phyllis Aronoff. En 2012, les éditions Quattro avaient traduit en anglais son « Contre Dieu »,« Against God ». Le rappeur XXXTentacion quittait un commerce de moto hier après-midi lorsqu'un homme armé s'est dirigé vers lui et l'a assassiné dans sa voiture à Miami, en Floride. Selon ce que rapporte TMZ, un témoin qui a vu la scène aurait constaté le corps inanimé et sans pouls du jeune artiste de 20 ans. La police a confirmé son décès quelques heures plus tard. XXXTentacion avait plusieurs problèmes avec la justice américaine. Il était d'ailleurs en attente de son procès pour violence conjugale impliquant sa copine enceinte. Un juge l'a autorisé à sortir de chez lui récemment pour qu'il puisse partir en tournée. En tout, une douzaine de chefs d'accusation pesaient contre lui. Même s'il n'est pas connu du grand public, l'artiste cumule tout de même des millions d'abonnés et de vues sur sa chaîne YouTube. Danny Boone revient à Montréal 2 mois après un passage au Québec pour promouvoir la sortie du film « La ch'tite famille ». Le comédien et humoriste français y remet les pieds pour donner la réplique à Jennifer Aniston et Adam Sandler dans « Murder Mystery », une comédie dans laquelle il campe un inspecteur chargé d'élucider une série de meurtres. Boone a révélé la nouvelle au micro de RTL lundi. L'acteur britannique Luke Evans apparaîtra également au générique du long-métrage qui sera relayé par Netflix. Murder Mystery brosse le portrait d'un policier new-yorkais, Sandler, qui amène sa femme, Jennifer Aniston, en voyage en Europe. Dans l'avion, les deux amoureux rencontrent un homme mystérieux qui les invite à passer une soirée sur le yacht d'un milliardaire âgé. Mais quand ce dernier est assassiné, ils deviennent les principaux suspects du meurtre. Le tournage du film a commencé hier. André Robitaille a partagé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sa conjointe Martine Franck et lui se séparent. C'est sur Facebook que l'animateur et comédien a annoncé ce changement dans la vie de sa famille. « Il est important de vous communiquer directement ce que nous vivons, question de respect pour vous et question de respect pour nous et notre entourage intime. Nous souhaitons le faire à notre façon. C'est la fin de notre couple. Nous tenons à vous partager nous-mêmes la nouvelle, mais nous souhaitons traverser cette étape difficile en privé. » a écrit l'homme de 54 ans. André Robitaille et Martine Franck partageaient leur vie depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Marie-Denise Pelletier a eu du mal à s'habituer au végétariat au cours de sa carrière. C'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Bruno Lapointe. Je n'ai jamais pris d'année sabbatique depuis mes débuts. Évidemment, il y a eu des moments plus tranquilles et c'est parfaitement normal. Mais au fond, tant mieux si des gens profitent de fame pour me redécouvrir, poursuit la chanteuse souriante en entrevue avec le Journal. Marie-Denise Pelletier reconnaît tout de même qu'elle a eu une carrière atypique qui s'est déroulée tantôt sous les projecteurs, tantôt plus discrètement. Depuis qu'elle a remporté le premier prix d'interprétation au Festival international de la chanson de Green Bay en 1982, la chanteuse a enfilé les succès radiophoniques, notamment pour Une histoire d'un soir, Survivre ensemble, à 17 ans. Avec aujourd'hui quelques 600 000 albums vendus au fil de sa carrière, elle s'est produite sur 4 continents avec des concerts en France, en Afrique, au Yémen et au Vietnam. Mais dans les dernières années, sa carrière a eu une moins grande portée médiatique avec des projets moins grand public. Et loin d'elle l'idée de s'en plaindre. « J'adore ce métier, j'adore être chanteuse, mais je déteste être une vedette. J'ai beaucoup de misère avec ça », déclare-t-elle. « Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, mais à 28 ans, j'assumais très mal le végétariat, je le vivais difficilement. » À l'époque, il fallait toujours être tiré à quatre épingles, mais moi, je veux pouvoir aller au dépanneur à l'heure que je veux en ayant l'air de ce que je veux. Cette liberté-là, j'y ai toujours tenu. J'aurais probablement été un peu malheureuse si j'étais devenue une méga star, poursuit-elle. Sa cote de popularité risque tout de même de regrimper cet été avec son rôle dans la comédie musicale Fame. Sur scène, Marie-Denise Pelletier devient Miss Sherman, une enseignante particulièrement autoritaire du célèbre High School of Performing Arts de New York. En acceptant ce rôle, la chanteuse effectue en quelque sorte un retour aux sources trois décennies après avoir prêté ses traits à Stella Spotlight dans l'œuvre de Luc Plamondon et Michel Berger, Starmania. La comédie musicale Fame est présentée jusqu'au 21 juillet au Théâtre Saint-Denis. Jay-Z et Beyoncé ont finalement mis leur récent album commun sur toutes les plateformes d'écoute en continu, y compris le géant Spotify, mettant ainsi fin à l'exclusivité offerte à Tidal, le service de musique en ligne de Jay-Z. Le couple le plus célèbre du monde de la musique a sorti samedi à la surprise générale l'album Everything is Love, où les deux artistes reviennent sur leur relation amoureuse qui inspire une grande partie de leur musique depuis plusieurs années maintenant. Charles Aznavour passera l'été en convalescence. Son attaché de presse a annoncé hier que le chanteur a annulé 5 concerts. Il devait remonter sur scène à Londres le 30 juin et qu'il reprendra sa tournée mondiale en septembre. Rappelons qu'Aznavour s'est fracturé un bras en faisant une chute à son domicile le 12 mai. Un mois auparavant, le chanteur s'était fait un tour de rein. Depuis ces accidents, Charles Aznavour est en bonne voie de guérison. Cependant, les médecins ont estimé que la rééducation sera plus longue que prévu, lit-on dans le communiqué de presse. À l'automne, le chanteur de 94 ans doit se produire au Japon, en Australie, en Belgique, en Suisse, ainsi que dans plusieurs villes en France. Le plus français des cow-boys américains, Lucky Luke, visitera Paris dans sa nouvelle aventure dessinée qui atterrira sur les tablettes en novembre prochain. Jules écrit le scénario d'un cow-boy à Paris et signe les dessins du personnage solitaire créé par Maurice et Goscinny il y a 70 ans. C'est la première fois que celui qui tire plus vite que son ombre quitte les plaines de l'Ouest américain pour découvrir la splendeur de la ville-lumière et le mode de vie de ses autochtones, les Parisiens, annoncé la maison d'édition d'Argo. Le plus récent album de Lucky Luke, La Terre promise, s'est vendu à 500 000 exemplaires dans le monde en 2016.
Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton, qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins et décontaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre et accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagadin, tagadin, y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne. Les jours l'ont augmenté de 20 centimes.
Des centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y'a plus personne.
Petit clin d'œil à cette nouvelle concernant Lucky Luke et le prochain film qui paraîtra. Lucky Luke qui traversera l'Atlantique pour aller rencontrer, comme le disait si bien dans l'article, les Autochtones, les Parisiens. C'était Joe Dassin avec ce tube de 1967, les Dalton.
Mise à jour dans la presse plus, Philippe Pichet faisant face à une démarche en destitution, Philippe Pichet a décidé de renoncer à son poste de directeur du service de police de la ville de Montréal, a annoncé la mairesse Valérie Plante. Il demeura à l'emploi du corps policier en prenant un poste d'inspecteur-chef. C'est le meilleur scénario pour tout le monde, a estimé la mairesse Valérie Plante peu avant d'entrer au conseil municipal. Il s'agit d'un règlement de la dernière heure, puisque les élus devaient se prononcer dans les heures suivantes sur la destitution. La renonciation met toutefois fin au processus, tout comme à la poursuite que l'homme avait intentée pour tenter de préserver son poste. Philippe Pichet avait été suspendu de son poste de chef du SPVM en décembre à la suite d'un rapport de maître Michel Bouchard sur la crise sévissant au sein du corps policier. L'enquête concluait que celui-ci n'avait pas su rétablir la situation alors qu'il était en poste. Cyberdépendance, reconnaître pour mieux soigner. En ciblant le trouble du jeu vidéo, l'OMS ouvre la porte à de meilleurs traitements. C'est un article de Marie-Lise Rousseau dans Le Devoir d'aujourd'hui. La dépendance aux jeux vidéo est désormais une maladie. Voilà une bonne nouvelle, se réjouissent des intervenants tant du côté de la communauté des gamers que du milieu de la santé au Québec. En ajoutant le trouble du jeu vidéo à son classement, l'OMS ouvre la voie à une meilleure reconnaissance de ce mal moderne, ce qui pourrait mener à de meilleurs traitements. Actuellement, il n'existe pas d'offre élargie de services pour soigner la cyberdépendance au Québec. Les régions y vont selon les demandes. Il est parfois difficile d'accéder aux ressources et il manque d'informations. Résume le coordonnateur des services professionnels au Grand Chemin, Miguel Thériault. Ce centre d'hébergement traite environ 250 cyberdépendants chaque année, majoritairement des adolescents. Une plus grande connaissance du problème permet d'espérer de meilleurs services, avance-t-il. Ça ne changera pas du jour au lendemain, mais ça nous dirige vers un ordre de services mieux structuré, dont l'ensemble des Québécois pourraient bénéficier, dit-il. Ce souhait est partagé par plusieurs intervenants, dont le président de la Fédération québécoise des sports électroniques, Patrick Pigeon. La dépendance aux jeux vidéo est dans le collimateur de la Fédération depuis sa fondation il y a 2 ans, précise-t-il. Elle préoccupe également la joueuse professionnelle réputée mondialement pour ses exploits virtuels, Stéphanie Harvey. Présentement, c'est une réalité très difficile à quantifier et à définir, constate la porte-parole du DreamHack Canada, le plus grand festival de gamers au pays. En rendant le sujet officiel, on aura de meilleures ressources pour comprendre et d'aider. Même son de cloche chez le président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer, qui a fait de l'accès aux soins de santé mentale son cheval de bataille depuis que son fils Thomas, qui souffrait de cyberdépendance, s'est enlevé la vie en 2015. Selon lui, il s'agit d'une occasion en or pour les parents d'établir un dialogue avec leurs jeunes. On ne se réjouit jamais quand il y a un problème de santé, souligne pour sa part le chercheur à la direction de la santé publique de Montréal, Jean-François Biron. Néanmoins, lui aussi applaudit la reconnaissance de cet enjeu qui permettra, selon lui, de mieux le définir et le comprendre. La présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux, abonde dans le même sens. Selon elle, la classification de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourrait faire de la dépendance aux jeux vidéo un véritable enjeu de santé publique. L'OMS définit le trouble du jeu vidéo comme un comportement qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes. Comme pour toute forme de dépendance, la ligne est mince entre l'usage récréatif et maladif, entre la passion et la maladie. M. Thériault observe chez les jeunes soignés au Grand Chemin les mêmes symptômes de sevrage que pour d'autres formes de dépendance. On voit énormément d'obsessions, d'angoisse et de stress. C'est très complexe de tracer une ligne, surtout au niveau des sports électroniques qui demandent beaucoup de temps, les joueurs professionnels s'entraînant plusieurs heures par semaine. En ayant une reconnaissance officielle, ça va être plus facile d'identifier qui est vraiment à risque, estime M. Pigeon. Le jeu vidéo est un puissant moyen d'évasion, note-t-il. N'importe quel jeu fait une coupure avec la réalité. Lui-même a déjà consacré une quarantaine d'heures par semaine à la pratique du jeu vidéo, tout en occupant un emploi à temps plein. Mais il n'est pas devenu accro pour autant. C'est une passion, mais je me contrôlais, explique-t-il. En 20 ans de gaming, il a toutefois vu certains de ses proches basculer dans la dépendance. « J'ai des amis qui ont tout perdu à cause du jeu », assure-t-il. Stéphanie Harvey insiste sur l'importance de maintenir un équilibre, tant dans le jeu qu'en dehors du jeu. La dépendance aux jeux vidéo ne concerne qu'une petite minorité des joueurs, a souligné l'OMS lundi. Le phénomène étant récent, il n'est pas encore documenté au Québec, mais on estime qu'il touche moins de 3 % des gamers dans le monde. Néanmoins, si l'organisation a ajouté le trouble du jeu vidéo à son classement, c'est parce qu'une croissance du problème a été portée à l'attention des experts, fait valoir Christine Groux. Ceci n'est pas une raison pour stigmatiser les joueurs, prévient-elle. Il ne faudrait pas sombrer dans un contexte où chaque fois qu'un parent voit ses ados sur une console, il s'inquiète et les amène en consultation. M. Biron rappelle que les adolescents sont à un âge caractérisé par la recherche de nouvelles expérimentations. L'usage peut être transitoire. Un jeune peut se faire de nouveaux amis et arrêter de jouer, cite-t-il en exemple. Maintenant que le trouble du jeu vidéo est officiellement reconnu, on peut s'attendre à ce que cette maladie soit davantage documentée au cours des prochaines années, avance Mme Groux. Québec travaille présentement à l'élaboration d'un plan de lutte contre les dépendances. La cyberdépendance est un nouvel enjeu dans notre société sur lequel nous nous penchons, a déclaré la directrice des communications du cabinet du ministre de la Santé, Marie-Ève Morneau, au Devoir. Miguel Thériault rêve que des outils comparables à DEP ADO, utilisés dans les écoles pour aborder les dépendances à l'alcool et aux drogues, voient le jour afin de mieux détecter les signes de cyberdépendance chez les jeunes. Ceux qui reçoivent des services actuellement sont ceux pour qui la situation est grave, soutient-il. Selon lui, la prochaine étape serait de reconnaître d'autres formes de cyberdépendance, au même titre que le trouble du jeu vidéo, notamment celle aux réseaux sociaux, qui touche beaucoup de jeunes adolescentes, observe-t-il. Alexandre Taillefer va un peu plus loin en souhaitant que davantage de responsabilités incombent aux compagnies qui développent des jeux vidéo, parfois conçus pour être addictifs. Ça ouvre la porte à la création d'une jurisprudence en la matière, avance-t-il. Bulletin 2018 de Participaction, note de D+ pour l'activité physique. C'est Marie Allard dans le cahier ou la section pause de la presse. Il n'y a pas de quoi être fier. Le bulletin 2018 de Participation rendu public aujourd'hui attribue aux enfants et adolescents canadiens la note alarmante de D+ pour l'ensemble de l'activité physique. Seulement 35 % des jeunes de 5 à 17 ans satisfont au niveau recommandé d'activité physique, alors que la recherche démontre l'importance de bouger pour avoir un cerveau en santé. Il n'y a pas eu d'amélioration ou presque depuis le dernier bulletin en 2016, regrette Pierre Morin, directeur des opérations de l'organisme à but non lucratif Participation au Québec. Pour la première fois, un énoncé d'experts qui stipule que tous les enfants devraient être physiquement actifs de façon régulière pour améliorer leur processus cognitif, leur fonction cérébrale et leur santé mentale accompagne le bulletin. Les enfants qui bougent ont de plus longues périodes de concentration que ceux qui sont moins actifs, souligne Participation. Cette corrélation s'applique à tous, y compris à ceux qui présentent un trouble déficitaire de l'attention ou un trouble du spectre de l'autisme. Fait saillant du bulletin, mouvement sur 24 heures. À peine 15 % des enfants et adolescents occupent bien les 24 heures dont ils disposent chaque jour. Autrement dit, ils bougent assez, dorment assez et ne regardent pas trop les écrans, décrypte Pierre Morin. Chez les tout-petits de 3 à 4 ans, de 3 et 4 ans, cette proportion baisse à 13 %. L'un des gobe-temps qui nuisent aux enfants, ce sont les écrans. Les enfants de 5 à 11 ans passent 2,3 heures de temps de loisirs, excluant les heures de classe, par jour devant un écran, tandis que les ados de 12 à 17 ans y consacrent 4,1 heures par jour. C'est trop. Le maximum est de 2 heures, rappelle Pierre Morin. Chez les adolescents, il n'y a aucun respect de ça. Bonne nouvelle, 77 % des jeunes de 5 à 19 ans sont inscrits à du sport ou à des activités physiques organisées. Ils font de la natation, de la danse ou du badminton une ou deux heures par semaine. C'est bien, mais nettement insuffisant. Il faut bouger tous les jours, souligne Pierre Morin. Il faut inclure l'activité physique dans notre quotidien, sinon on ne bouge pas assez. Il faut aussi que les parents donnent l'exemple aux enfants. Selon les directives canadiennes, les enfants de 5 à 17 ans doivent faire au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par jour. Alors là-dessus, je m'en vais prendre une longue marche. Peut-être que je vais courir un peu. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis. On se retrouve demain.